Je suis ravie d'annoncer que nous serons à VivaTech ce mercredi 22 mai pour modérer la table ronde « Rendre sa place aux médecins vers une santé plus humaine grâce aux données » organisée par Abbott avec des invités exceptionnels. Alors n'oubliez pas, rendez-vous le 22 mai à 12h30 à VivaTech. Un grand merci à Abbott pour leur confiance. Leçon 2. Une expérience radicale m'a fait prendre une décision radicale. Après avoir réussi à mener avec brio des projets à la télévision et son parcours académique, Carlos entame des études supérieures dans la meilleure école de son pays, le Mexique. C'est également pendant son cursus qu'il fera ses premiers pas dans l'industrie pharmaceutique, loin de s'imaginer ce que le reste de sa carrière lui réserve.
Quand j'ai été accepté du coup à l'université sur la partie de business, donc du coup je fais une formation en business administration, j'ai accédé directement à un programme qui s'appelle PAEA. Le PAEA, en fait, c'est un programme de haute exigence académique qui te permet d'avoir le meilleur professeur, ou en tout cas de choisir le professeur que tu veux, avec des horaires assez flexibles pour faire tes études. Et ça te permet également de t'investir sur d'autres activités avec une subvention du gouvernement. Donc, je me suis mis une pression depuis les débuts de ma licence pour être vraiment un top performer, on va dire. Et du coup, c'était quelque chose de super sympathique parce que j'ai pu découvrir d'autres collègues qui avaient un peu les mêmes ambitions que moi. En accédant justement à ces programmes, je me suis dit, je veux pas faire une toute petite carrière universitaire ou même professionnelle. Je veux vraiment aller loin, quoi. Et du coup, j'avais 18 ans quand j'ai commencé mes études supérieures. À ces moments-là, justement, j'ai connu du coup mes meilleurs potes de ces moments-là, qui m'ont accompagné également sur cette démarche on va tous accompagner pour avoir des bons résultats, des bonnes qualifications, etc. Donc la première année, c'était full-time à l'école, avec eux également des cours de gymnastique, parce que c'était justement l'activité que je faisais à côté. Et puis, à partir de la deuxième année, j'ai pu intégrer le laboratoire Lilly. Donc c'était mon laboratoire où j'ai fait ma première alternance quand j'avais 19 ans, dans la partie des études des marchés. Alors c'était assez curieux, le premier entretien que j'ai eu chez Lilly, parce que la RH m'a dit « tu n'es pas fait pour le marketing ». Je passais un entretien, j'étais très timide à l'époque, en fait j'arrivais pas forcément à bien m'exprimer, j'étais impressionné finalement, c'était la première entreprise que je connaissais. Du coup, j'arrive à un entretien. Forcément, je fais un entretien horrible. Et du coup, la RH me dit ça. Me dit, t'es pas fait pour le marketing. Je te conseille d'échanger d'idées. Parce que j'avais postulé pour un poste chef des produits junior en alternance. Du coup, j'étais forcément déçu. Je suis allé parler avec mes professeurs. J'ai dit, bon, on m'a dit que je suis pas fait pour le marketing. Ma professeure à l'époque, elle m'a dit, mais je suis sûr que t'es fait pour le marketing. Fais un autre entretien. C'est pas vrai ce qu'on t'a dit. Bon, j'ai pas fait d'autres entretiens, mais la même RH m'a appelé quelques semaines plus tard, 2-3 semaines plus tard, pour me dire « J'ai un autre poste à te proposer, est-ce que ça t'intéresse ?» C'est un poste en analyse des marchés. Je savais pas du tout ce que c'était l'analyse des marchés, mais je me suis dit « Pourquoi pas ?» J'étais impressionné encore une fois par les beaux bâtiments des Lilly, des collègues super bien habillés, etc. Donc je suis revenu, j'ai passé l'entretien et j'étais retenu en tant qu'alternant. Donc j'ai passé un an en alternance. Je me suis investi à fond sur cette alternance, mais en même temps aussi à l'école. Donc j'avais des cours de 7h du matin à 9h du matin. Ensuite, j'allais chez Lilly de 9h30 jusqu'à 17h et quelques. Et puis les cours de soir, de 18h jusqu'à 22h. Et j'ai fait aussi des cours les samedis. Donc c'était des journées archi chargées pour le coup. Et les dimanches, en plus, j'allais à l'église. Donc vraiment, c'était complètement chargé. Mais j'ai beaucoup aimé cette période parce que j'ai appris justement à avoir des activités et à me dire, tout le travail que je suis en train de faire va payer un jour. Parce que depuis ces moments-là, j'avais des ambitions assez importantes. Au bout d'un an, je participais à un processus chez Lilly, qui s'appelait Pépinière des Talents. Et c'était la première fois qu'ils proposaient des talents au sein des Lilly Mexique. Donc j'étais le premier choisi, on va dire, des talents. Et on m'a proposé un développement des carrières accélérées. Donc j'ai pu intégrer mon premier poste suite à l'alternance, qui était responsable multichannel. Et donc, c'était drôle parce que ça faisait partie de l'équipe marketing. Et là, j'ai dit à la RH, tu m'avais dit que j'étais pas fait pour le marketing. Et voilà, je suis fait pour le marketing. Et même actuellement, je travaille énormément avec les équipes marketing. Donc voilà, je pense que un petit message aussi à faire passer, c'est quand on te dit non, si toi t'es convaincu que c'est pour toi, bah, sois résilient, quoi. Tu peux y aller, quoi. T'es fait pour ça. Ne te laisse pas faire par quelqu'un qui t'a dit non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, je garde beaucoup d'estime pour cette personne des ressources humaines. Parce qu'elle m'a accompagné par la suite de ma carrière chez Lily, et vraiment, je pense que c'était plutôt moi qui me suis trompé sur mon premier entretien. Par la suite, je suis resté chez Lily, du coup, sur ce poste de multichannel. C'était la création d'un département, finalement, parce que le multichannel n'existait pas chez Lily. C'était la première fois qu'on créait un département dessus. Et puis, j'ai découvert cette manière de communiquer avec les médecins de manière différente, autre que la visite médicale. Donc, ça m'a toujours attiré. Par la suite, je suis allé sur le terrain et j'étais visiteur médical. Et malheureusement, il y a eu une restructuration un an plus tard. Et du coup, toute la BU des neurosciences a été coupée dans le mois. C'était une période assez compliquée pour moi parce que à ce moment-là, justement, j'ai commencé à faire mon coming out parce que je sortais avec un garçon qui était à l'époque, donc avant que je commence à sortir avec lui, il était chez Lily. Et quand il est parti de Lily, on a commencé à sortir ensemble. Donc, quand le contrat des Lily, bon, c'est pas le contrat, mais plutôt la restructuration arrive, c'était déception amoureuse, déception d'entreprise, en plus la première. Moi, je croyais justement que j'allais faire toute ma carrière chez Lily, mais malheureusement, il y a des décisions que voilà, personne ne maîtrise finalement. C'est des décisions qui viennent voilà du groupe. Et donc, je me retrouve sans boulot, sans copain. En plus, j'avais déjà terminé mes études du coup universitaires. Quoi faire? Bah, du coup voyager, c'est ce que je me suis dit. C'était ma porte de sortie. Je savais pas du tout ce que je pouvais faire au Mexique à ce moment-là. Je me suis retrouvé face à un mur. Vraiment, je voyais pas autre chose que m'échapper, entre guillemets. Donc, j'ai fait mon premier voyage de longue distance. C'était en Europe. Et je suis arrivé à Paris le 9 novembre 2015, si je me trompe pas.
Carlos révèle que ce voyage a présenté un véritable tournant dans sa vie à bien des égards. Premièrement, il s'était pris de la France, un coup de cœur qui allait profondément orienter son parcours à l'avenir. Plus qu'une simple découverte culturelle, ce périple s'est avéré être une façon de mieux se connaître lui-même à une période remplie de questionnements.
La première chose qui a eu un impact sur mon état d'esprit, c'est l'effet de me retrouver sur des langues que je ne maîtrisais pas. Donc le français, l'allemand, l'anglais, je parlais un peu, mais je n'étais pas non plus expert. Donc le fait de devoir se débrouiller, se faire comprendre, rien que ça, ça fait changer tout de suite la mentalité. On n'est plus en mode « je suis dans ma zone de confort, je veux me faire comprendre ». Là, c'est vraiment comment je fais pour demander un café, comment je fais pour demander un hôtel, comment je fais pour demander combien ça coûte. Donc ce côté de découvrir une nouvelle langue, ça pousse déjà les gens de manière générale. Mais autre chose qui m'a poussé, et du coup c'est un peu drôle, c'est que je voulais absolument découvrir la neige. Je me suis dit, je vais aller dans une station de neige, parce qu'au Mexique, il neige jamais en fait. En tout cas, à Mexico City, impossible quoi. Et du coup, je suis allé en Autriche, à la station Stubaier Gletscher, qui est proche d'Innsbruck. Et j'étais tout seul dans ces voyages. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, je vais skier pour la première fois de ma vie. Allez, je vais à une station de ski. Du coup, je loue mon matériel, j'arrive à la station de ski et je vois que les gens prennent des télésièges. Bon, je connaissais absolument rien. En plus, tout était écrit en allemand. Je savais pas ce que j'étais en train de faire forcément. Et j'ai vu, en fait, qu'il y avait des couleurs un peu écrites dans les panneaux. J'ai vu qu'il y avait un où tous les enfants montaient. Du coup, je me suis dit, bah, je vais pas faire ça quand même. J'arrive à tenir debout sur mes skis. Donc, forcément, je vais monter dans l'autre. Je prends celui des gauches. C'est une piste noire. Première fois sur des skis et je monte une piste noire. Bah, dès que je sautais du télésiège, je suis tombé en fait. Et en plus, c'était vraiment, escarpé. Oui, c'était complètement escarpé. Mais vraiment, genre, je sais pas comment j'ai eu la tête de prendre ces télésièges, vraiment. Du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, j'essaie de un peu imiter les mouvements des autres. Bah, évidemment, j'ai tombé toutes les deux secondes. Et si je tombais pas, en fait, je me jetais par terre parce que c'était la seule façon de m'arrêter. Je savais pas freiner. Du coup, pour pouvoir descendre, à la fin, je me suis assis sur mes skis et je mettais les pieds devant pour essayer de m'arrêter un peu jusqu'à arriver à une station de ski. Bah, qu'est-ce que je fais? Je prends une bière. En plus, c'était une bière très forte. Je la vois très rapidement parce que j'étais paniqué. Et je me suis dit, je peux pas m'arrêter là. Il faut que je remonte parce que sinon, je vais avoir trop peur et je vais plus jamais skier. Et donc, je suis remonté. J'aurais pas dû, sincèrement. J'aurais pas dû. Il était déjà 16 heures. Il a commencé à neiger très fort, genre c'était une tempête de neige. Je voyais plus personne, je voyais plus un mètre devant moi et je tombais tous les 5 secondes encore une fois. Du coup, à un moment donné, je me suis vraiment jeté par terre. J'étais tellement paniqué de ne pas savoir si j'allais tomber quelque part, s'il y avait une falaise ou autre, que je me suis jeté. Je me suis dit, ça y est, je suis resté à Innsbruck, je vais plus jamais m'en sortir. Mais vraiment. Et je pense que c'est un déclencheur, ces moments-là, parce que j'étais très triste, en fait, par mes ruptures, etc. Là, je me suis dit, c'est la fin, j'ai plus rien à faire. Il y a une personne qui est tombée sur moi, littéralement. Enfin, j'étais par terre, donc du coup, la personne m'est skié dessus, et du coup, il est revenu, il m'a dit, est-ce que je peux t'aider en anglais? Et je lui ai dit, j'arrive pas à m'en sortir. Du coup, il m'a mis sur ses skis pour me faire descendre de cette montagne. Et ces jours-là, je me suis dit, c'est un wake-up call. C'est vraiment, tu dois te réveiller. Tu peux pas rester dans ta tristesse. Tu ne peux pas rester dans cet état d'esprit que tu avais. Je pense que si j'avais pas eu cette expérience, j'aurais eu toute une suite de voyages très tristes. Mais grâce à cette expérience, je me suis dit, c'est le moment de profiter. Et à partir de là, justement, j'ai pu faire un voyage qui était complètement différent. Ça a changé à 180 degrés.
À suivre. Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Ce podcast est produit par Medcheck Studio, le premier studio spécialisé dans la production et la promotion de podcasts pour le secteur de la santé. Pour continuer à suivre l'actualité de ce secteur, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de notre partenaire pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à vos familles ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.